Je vais commencer rondement. La présentation, en passant, va être disponible sur SlideShare pour ceux que ça intéresse, parce que vous allez avoir les transparents. Et il y a beaucoup d'informations dans les transparents. J'ai mis des hyperliens. Donc, ceux qui veulent les consulter pour un peu aller aux sources, ça pourrait être utile. Donc, ça, c'est le résumé de la présentation. Donc, je vais aller rondement. Donc, l'aperçu, je vais faire une petite mise en contexte et parler un petit peu de moi. Pour que vous puissiez décoder un peu, hein, c'est important de savoir là, un peu de choses sur le présentateur. Et pour assurer, parler peut-être un fil conducteur de la présentation, mais voici un peu ce que j'essaie de couvrir aujourd'hui. Donc, je ne vais pas tout lire, mais je vais le lire avec un certain parcours, mais vous allez voir qu'on aurait pu faire le parcours très différemment. Parce que tous ces éléments-là, éventuellement, s'imbriquent un dans l'autre pour faire une espèce d'amalgame qui peut être utilisé par les enseignants. Et je vais faire une petite conclusion à la fin. Je vais terminer là pour pouvoir avoir une période de questions quand même importante. Donc, mise en contexte, on sait qu'il y a une concurrence universitaire alimentée par les classements. Il y a des classements tout le temps, partout maintenant. C'est la norme, il faut aussi faire. On entend beaucoup parler maintenant de favoriser la réussite des étudiants et valoriser les formations. Ça, c'est vrai en Amérique du Nord, c'est vrai aussi. J'ai entendu votre ministre qui insiste beaucoup sur cet aspect-là. Donc, convergence encore ici. Et évidemment, on parle beaucoup d'assurance qualité des apprentissages. Donc, non seulement il faut valoriser les apprentissages, mais il faut que ce soit des apprentissages signifiant, intéressant, pertinent. Pour se rajouter quelques contraintes, dans un contexte budgétaire difficile, hein, partout, ici, chez nous au Québec, là, et aux États-Unis, c'est légèrement différent. Il y a vraiment cette notion-là de droit de scolarité qui est en train de... quand les étudiants paient jusqu'à 50 000 $ par année, il y a des parents qui commencent à poser des questions. On ne sera pas surpris de ça. Dans un environnement technologique en complète effervescence, là, on parle d'innovation radicale, ça peut être inquiétant. Donc, ça bouge énormément du côté de la technologie. Et en plus, les étudiants changent. Et les étudiants sont quand même passablement différents. Donc, c'est le contexte. Bon, qui suis-je rapidement? Je suis professeur d'économie à HEC Montréal. J'ai été directeur d'un programme, du programme de BA, qui est le programme licence, là, grande école, en fait, trois années universitaires là, en administration chez nous. Je suis titulaire d'une chaire en technologie. Je suis aussi directeur d'un centre de recherche multidisciplinaire sur les technologies. Donc ça m'a permis de voir les choses d'une autre façon. Je suis membre aussi d'un groupe qui s'appelle GTN Québec, qui s'intéresse beaucoup aux normes, là, c'est-à-dire l'homme, les normes de portfolio, les normes d'interopérabilité, qui est une facette importante de plus en plus maintenant. Et je collabore avec plusieurs établissements à Grenoble, et en particulier avec un projet IDEFI, là, Promising, sur la formation à l'innovation. Donc, cette expérience-là, elle est teintée par la technologie. Donc, j'ai utilisé des choses. Entre autres, j'ai beaucoup aimé travailler avec des tableaux interactifs, mais il semblerait qu'ils sont moins à la mode maintenant. Mais j'ai trouvé ça intéressant. J'ai été aussi celui qui était responsable de la mise en place de ce qu'on appelait le ThinkPad University à HEC, c'est-à-dire tous nos étudiants en 98 avaient des ordinateurs portatifs. Bon, maintenant, c'est rien. Mais à l'époque, l'ordinateur portatif coûtait quand même presque 2 500 € en 98. Donc, c'était pas rien, c'était tout un changement. Les classes inversées, on en parle énormément. J'ai eu la chance d'expérimenter. J'ai travaillé sur un projet zone cours, on va revoir, sur la formalisation des syllabus de cours. Donc, ça peut être important. On a un cours en ligne à distance là, depuis 2004. Je suis assez... j'aime beaucoup ce qu'on appelle les télévoteurs, ou en anglais, les clickers. C'est-à-dire, on pose des questions aux étudiants et ils répondent avec leurs téléphones intelligents. Il faut bien que ça serve dans une classe, de temps en temps, les téléphones intelligents. Donc ça, c'est une option qui peut être intéressante. Depuis 2010, on travaille dans notre centre sur les portfolios électroniques de façon très sérieuse. Donc c'est un truc important, donc j'espère en parler. En mai dernier... j'ai eu à mettre en place un MOOC qui s'appelle Édulib, le HEC Montréal, que certains étudiants ont subi. Et finalement, je travaille présentement, m'intéresse beaucoup au format EPUB 3, les formats de diffusion électronique là, pour toutes sortes de plateformes. Donc, c'est un peu mon expérience, qui est assez limitée, mais qui un peu teinte ma présentation d'aujourd'hui. Donc, le fil de conducteur de la présentation, c'est très impressionniste. Hein? C'est pas une présentation scientifique. Il y a des choses qui m'ont frappé et qui me frappent, donc j'aimerais vous en parler. Après ça, vous verrez. La logique narrative, ça va être, on va s'intéresser beaucoup à la classe pour après ça, éventuellement, aller vers les programmes, parce que je pense que c'est ça qui est frappant maintenant. Il y a cette interconnexion-là entre le particulier et le général. Je ne parlerai pas de tout. J'aime beaucoup les jeux sérieux. Je n'ai pas trouvé le temps de comprendre vraiment ce que c'est. Et tout ce qui est ludification aussi, qui semble de plus en plus important et intéressant, ce qu'on appelle la gamification, ça va devenir... Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de langage. D'habitude, j'utilise des termes français. Et bon, vous m'interpellerez si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. En passant, je fais une remarque aussi très importante. J'ai aucune intention prescriptive. Je ne veux pas dire à personne quoi faire. Et je suis convaincu qu'il y a de très bons professeurs qui font un travail remarquable avec toutes sortes de choses, incluant le cours traditionnel. Donc, il n'y a pas ici de choix là, en particulier. Bon, un fil conducteur de la présentation aussi, c'est... on en a parlé beaucoup, je reprends des choses hein, en passant de toutes sortes d'intervenants, entre autres de Sir John Daniels, qui a été un des directeurs là, ou président là, de la Open University et du Commonwealth of Knowledge aussi, et de l'UNESCO aussi. C'est ce qu'il appelle le triangle là, de l'éducation, c'est-à-dire ces trois contraintes, ces trois objectifs contraintes-là qu'on a, l'accès, la qualité et les coûts. Okay? Et on va voir qu'il y a toujours un arbitrage entre ces facettes-là. On peut très bien favoriser l'accès au détriment de la qualité, ou on peut abaisser les coûts. Enfin, il y a toutes sortes de combinaisons qui sont intéressantes, et en particulier pour les MOOC. Ceux qui s'intéressent aux MOOC, c'est quand même intéressant ce triangle-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je le reprends peut-être un petit peu plus gros. Donc, classe inversée, culture participative, données massives, compétences, contenu en excellible, MOOC, grille de correction, badge, portfolio. Bon, c'est beaucoup. Il y a des choses que je vais faire plus rapidement et vous aurez peut-être toujours le loisir de les consulter après si vous voulez. Bon, classe inversée, on en parle vraiment beaucoup. C'est le sujet à la mode présentement. Et c'est vraiment dans cette mouvance-là qu'on a de l'enseignement vers l'apprentissage. Je pense qu'on a fait ce... Alors, tout le monde comprend cette distinction-là. Bon, je ne sais pas si tout le monde la pratique, mais on la comprend. Et, bon, vous connaissez la classe habituelle où le professeur, présente de façon magistrale les contenus, les étudiants prennent des notes, vont à la maison, font les exercices et on les examine. Bon, la classe inversée, bien, les étudiants font les lectures avant et viennent en classe se pratiquer. Faire des exercices. Donc, il y a des variantes infinies de ça. Je vais en présenter quelques-unes. C'est très, très populaire présentement, si bien qu'il y a beaucoup de pubs aux États-Unis. Hein. Le secteur privé est très présent. Donc, Adobe offre des cours gratuits pour les enseignants sur comment donner des classes, là, des classes inversées. Donc, 10 choses qu'on devrait savoir sur les classes inversées. Donc, je ne veux pas vous faire ça. Il y a toutes sortes de cours. Moi, j'ai été frappé par un cours sur un prof américain qui avait un cours sur l'introduction à la Rome antique en classe inversée. Donc, aucun cours magistral. Les étudiants travaillent sur des projets en classe, font les lectures. C'est tellement à la mode présentement que dans une revue électronique qui est assez connue aux États-Unis, Chronicle of Higher Education, je ne sais pas si vous suivez, le 30 septembre, il y avait un spécial Inside the Flip Classroom. Donc, c'est vraiment un sujet de l'heure, on en parle beaucoup. Ça, c'est une photo qui représente ce qu'on devrait avoir. En fait, je pense que ça prend la bouteille de Coke dans la Flip Classroom pour que les étudiants aient de l'énergie pour continuer. Là, parce qu'ils ont lu très tard le soir, puis là, ils sont fatigués. Là. Une variante intéressante, c'est ce qu'on appelle le studio, la classe studio. C'est populaire à MIT, beaucoup de classes de sciences aux États-Unis. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un amphi où on fait les cours, on essaie de transformer ça en problème en classe. Et là, vous voyez une classe à MIT où on a des tableaux interactifs partout dans ces MIT. On n'est pas obligé d'avoir des tableaux interactifs. Et là, les étudiants travaillent sur des projets, des problèmes. Bon. La classe inversée, moi, je l'ai fait. Je peux vous dire que la première fois que je l'ai fait en 2000, c'est un peu angoissant. Parce qu'on est programmé, les enseignants, à « si je ne parle pas aux étudiants, comment vont-ils apprendre? » Et, ben, surprenamment, ça fonctionne. Ils apprennent quand même. Donc, c'est, il faut faire l'expérience. Ça demande énormément de préparation et de scénarisation. On ne peut pas arriver, on fait une classe inversée. Donc, il faut vraiment préparer les choses. D'ailleurs, le prof qui a fait le cours sur la romantique, c'est la première chose qu'il dit, c'est très crédible. J'ai dit « Oups! » Je ne pensais pas que ça prenait autant de temps que ça. Ça prend énormément de temps parce qu'il faut vraiment tout prévoir. Bon, est-ce que c'est un concept nouveau? On ne le sait plus. Je pense qu'il y a toujours des enseignants qui avaient des périodes « je parle, vous faites des choses ». Donc, en fait, c'est difficile de... Mais le plus frappant, et moi, ce qui m'a plus frappé, c'est que c'est très déstabilisant pour les étudiants. Et même encore aujourd'hui, les étudiants, moi, je dirais un 20, 25, 30, peut-être même plus que ça, sont complètement réfractaires à ce genre d'approche-là. Ils nous aiment dans le cours magistral, avec toutes nos qualités et nos défauts. Donc, c'est assez surprenant. C'est quelque chose de... Mais c'est pas impossible, là, non plus à briser, parce qu'évidemment, les étudiants sont... On a toute cette question-là de la culture participative. Je vais aller rapidement sur ça. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Donc, c'est cette peu de barrière à l'expression, soutien des autres pour créer des choses. Il y a du mentorat informel dans la culture participative. Les plus expérimentés aident les plus jeunes, les moins expérimentés. Chacun pense que sa contribution est importante et il y a une espèce de communauté là, qui se bâtit. Donc, ça a été étudié par les auteurs, je cite. C'est en train d'influencer beaucoup de domaines en sciences politiques, en sociologie. C'est vraiment... la culture participative, c'est vraiment l'opposé de la culture de consommation. Donc, c'est vraiment à l'opposé. Donc, nos étudiants, semble-t-il, sont dans cette culture-là. Et... Il y a des gens qui l'ont déjà perçu, qui ont fait des choses pour un peu exploiter ce volet-là. Un vidéo, là, si vous avez le temps, et un vidéo qui est vraiment intéressant à regarder, c'est la vidéo de Éric Mazur, qui est professeur de physique à Harvard, à l'Université Harvard. C'est intéressant parce qu'il a été, je ne sais pas si vous connaissez, c'est lui qui a un peu inventé cette notion-là de ce qu'ils appellent « peer teaching », l'enseignement par les pairs. Donc, lui a été estomaqué, justement, à un moment donné, de constater, de façon scientifique, que ces étudiants, qui étaient évidemment de Harvard, les meilleurs étudiants au monde, qui avaient suivi les cours d'un des meilleurs professeurs au monde, connaissaient très peu de choses sur la physique, finalement. Et quand il a constaté ça, ça a été un choc pour lui, et un choc tellement grand qu'il a complètement changé sa façon de faire et il a inventé un peu cette approche-là, je pense. Et qu'est-ce que c'est le peer teaching? C'est assez simple. On pose des questions. On pose une question à un groupe d'étudiants. Les étudiants répondent, soit par des... Il y a toutes sortes de façons, là, avec des cartons ou avec des télévoteurs. Répondent à des questions de choix multiples. Je vais vous montrer un exemple. Et là, il y a habituellement un problème. Parce que c'est pas très clair et on voit que les étudiants n'ont pas compris. Quelque chose qu'ils ont lu en passant. Et là, les étudiants s'expliquent entre eux les concepts, essaient de discuter, bon, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, tout ça. Et après ça, il y a des tests encore qui sont posés. Et là, on voit que, règle générale, il y a une amélioration importante des apprentissages. Je vais vous montrer une question assez simple. Je ne suis pas un physicien, là, mais on pose une question aux étudiants. Donc, voici, vous avez un bassin d'eau, vous avez deux briques, et là, vous avez une brique qui est tenue un peu plus profondément que la deuxième brique. Ça va? Dans un bassin. Et là, on pose aux étudiants la question sur la force. Est-ce que la force nécessaire pour les tenir est plus grande, égale ou plus petite? Bon. Des étudiants d'Harvard, première année, on fait 5 ans de physique et tout ça au high school. Bien, à gauche, vous avez avant la discussion. C'est presque aléatoire. Vous avez le tiers, bon, un peu plus, la bonne réponse, c'est deux, là, c'est la même force. Un peu plus qu'ils ont quand même. un peu plus qui ont la réponse 2, mais c'est hallucinant de voir combien les réponses ont varié. Et après ça, ben, ça va un peu mieux. Donc, les étudiants ont peut-être convergé vers la réponse. Donc, c'est avec des résultats comme ça de tests là, concrets que Éric Mazur a complètement changé sa façon d'enseigner. Et moi, ça m'a complètement convaincu que quand on enseigne en classe et qu'on pense que les étudiants ont vraiment compris parce qu'on a vraiment donné un bon cours, bon, il faut faire preuve d'humilité parce que, fort probablement, ils n'ont pas tout compris et il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc ça, c'est... Éric Mazur a fait une leçon d'humilité devant tout le monde. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment quelqu'un qui réfléchit à voix haute devant ses collègues. C'est intéressant, vous l'écouterez sur... Et ça nous amène à ce qu'on appelle de plus en plus dans le domaine, là, ce qu'on appelle les données massives et le big data. Dans le fond, comment orienter nos intentions pédagogiques, comment orienter nos méthodes pédagogiques sur notre expertise, sur notre impression, sur nos collègues ou sur des données de plus en plus factuelles, sur des faits, sur des évidences scientifiques qu'on essaie de collecter. Donc, le big data, c'est vraiment cette collection-là de données qui est volumineuse et qui fait en sorte qu'on ne peut plus travailler avec des outils traditionnels d'analyse de données comme SPSS parce que vous avez comme, des millions de clics, des millions de réponses. C'est quelque chose qui est en train de changer, et en particulier les MOOC, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est un des moteurs là, de ce qu'on entend sur les MOOC. Donc, un exemple de données massives qui ressemble un peu à la classe inversée, c'est à l'Université de Virginia Tech aux États-Unis, l'université qui a été touchée là, par la fusillade il y a quelques années. Là, il y a un professeur de mathématiques qui a constaté que dans un amphithéâtre de 800 étudiants, l'apprentissage du calcul différentiel et intégral n'était pas nécessairement très bon. Bon, il a fait plus que ça. Il est allé plus loin et il a loué un centre d'achat désaffecté qui était, imaginez, une grande surface américaine, pas très loin du... Et là, il a dit, bon, ben on a de la place. Il loue la grande surface et installe des centaines d'ordinateurs et fait la classe inversée. Donc maintenant, depuis, 5-6 ans, plus que ça, Virginia Tech, le cours d'introduction au calcul différentiel intégral se fait dans une espèce de grand labo informatique. Les étudiants se présentent... répondent à des exercices, font des lectures, peuvent travailler en équipe. Donc, il n'y a plus de cours magistral. C'est complètement décentralisé de cette façon-là. Et évidemment, la raison pourquoi le cours est s'améliore, c'est qu'évidemment, les organisateurs ramassent des données sur où sont les difficultés, quels sont les problèmes qui causent... qui présentent des défis particuliers. Ils ajustent le matériel pédagogique, ajustent les séquences de façon à ce que les choses s'améliorent. Donc, il y a une organisation peut-être plus scientifique là, des apprentissages qui est permise. Ce projet-là, je pense, faisait partie d'une initiative aux États-Unis qui s'appelle « The National Center for Academic Transformation ». Et c'est un organisme qui s'est donné comme objectif, pardon, de briser les pratiques traditionnelles. Et vous voyez ici, en haut, là, je vais le lire, c'est « Experts in improving learning and reducing cost in higher education ». Donc, si on revient au fameux triangle là, de tout à l'heure, de John Daniels, eux, à Virginia Tech et ce centre-là, sont convaincus qu'ils sont capables d'améliorer les apprentissages à moins cher. Bon, ben ça, c'est très rare. Moi, je suis économiste de formation. Quand on peut faire mieux, moins cher, tout le monde fait... Enfin, il y a des sonnettes et tout le monde, là, c'est quelque chose de... Ça n'arrive pas souvent. Et c'est possible. Et eux, ils parlent d'amélioration de coûts entre... Et je m'excuse là, de parler de coûts comme ça. Ça ne se fait pas en sciences en général, mais c'est quelque chose qui est inévitable. Bon, je viens d'une école de gestion, vous me pardonnerez. Mais quand même... il parle de 20 à 80 % de réduction de coûts pour la même qualité, même meilleure. Bon, question. Donc, chaque semaine, il y avait une espèce de cadence, on devait faire des choses. Et nos tests sommatifs, formatifs avaient une rétroaction très complète qu'on ne prend pas la peine de donner. Donc, il y a vraiment une différence avec les MOOC, hein, à cause de l'échelle. Ça vaut la peine de passer du temps à faire une rétroaction complète sur des questions pour vraiment avoir un environnement le plus complet possible. Donc, l'échelle est importante. Donc, il y avait un forum de discussion qui a été plus ou moins suivi comme tous les forums de discussion. Et on avait un fil Twitter que j'animais surtout principalement. Bon, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir une sortie Facebook. Donc, j'aurais dû faire une sortie Facebook. Là, j'ai regretté après. Je ne suis pas trop Facebook, je suis plus Twitter, mais bon, une erreur. Les statistiques sont assez standards. Moi, j'avais 5000 inscrits au début. Il y en a 1200 qui sont venus la première semaine. Il y en a 623 qui ont fait le premier test. Et il y en a 351 qui ont fait l'examen final et il y en a 300 qui ont réussi. Ce qui n'est pas si mal, c'est-à-dire, moi, je calcule que j'en avais à peu près 600 d'étudiants qui étaient là. J'en ai la moitié qui ont réussi. Le cours, je peux vous dire, c'était vraiment un cours de niveau universitaire. Bon, je n'ai pas trop le temps d'expliquer la différence avec le cours que je donne normalement. Il y avait des différences, mais l'ampleur du matériel... faisait en sorte que, vraiment, les étudiants qui ont réussi ont eu une couverture quand même très, très intéressante. Donc, moi, je suis très, très surpris. Voici un peu un écran. Donc, j'essaie de démystifier les MOOC. Il ne faut pas penser là, que c'est des choses épouvantables, impossibles à faire. Là. Vous voyez à gauche là, un menu, comme on le retrouve dans la plupart des environnements. C'est-à-dire, nous, c'était classé par séance, séance 1 à 6. Et les étudiants cliquaient sur les séances pour avoir accès au matériel. Donc, ils avaient les capsules à visionner, les objectifs. Un peu plus bas, je ne l'ai pas mis, la lecture à faire. Mes lectures étaient gratuites aussi, donc il n'y avait pas acheté de livres. Et il y avait un forum, on avait des sondages. Donc, c'est pas très différent de ce que la plupart d'entre vous faites. La différence, je dirais, c'est plus là, le fait qu'il y avait vraiment une population très, très diversifiée. Là, je n'ai pas le temps de vous présenter les statistiques, mais on avait des Africains, des gens du Maghreb, un fort contingent d'Haïti. On ne sait pas trop pourquoi. Il y avait énormément d'étudiants d'Haïti, des Québécois, bien sûr, de partout. Je pourrais dire qu'il y avait un noyau dur de gens qui étaient extrêmement actifs. On va faire une recherche, je vais en parler tout à l'heure pour le documenter. Là, je ne peux pas le documenter formellement, mais je peux vous dire quelque chose. Et même, ça devient un petit peu stressant. C'est-à-dire que je peux vous dire que dès qu'on déposait le vidéo, je peux vous dire que s'il y avait une erreur dans le vidéo, et personne n'était, en moins d'une heure après le dépôt du vidéo, il y en avait 6. En moins d'une heure, il y avait un message courriel qui disait... Il y a quelque chose de bizarre dans le vidéo 4. Je ne comprends pas trop la diapositive 22. Et là, on se dit, comment, en une heure, quelqu'un a pu trouver ça? Je peux vous le dire. Les gens le trouvaient. Donc, il y a quelque chose de différent qu'on ne trouve pas, en règle générale, dans un amphithéâtre. En fait. Ben, peut-être, je ne sais pas. En fait. Il y a un truc assez différent avec les MOOC que les enseignants, là, qui est un choc. Moi, ça m'a pris un mois presque à me reconvertir. C'est qu'il ne faut pas faire des capsules qui sont plus que 10 minutes. Donc, il faut scénariser toute sa matière pour qu'elle soit logique, intéressante, en capsule de 10 minutes. Ce n'est pas évident. Et il y a une intensité, dans ce 10 minutes-là, il y a une intensité là, qui est quand même assez forte là, en termes de contenu. Mais c'est pas du contenu qui est présenté rapidement, c'est présenté lentement. Je n'aurai pas le temps de vous le montrer, là, malheureusement, mais de toute façon, ça ne donnerait rien. Là, vous me verriez comme ça, puis là, je présente. Mais il y a justement la scénarisation, et on a des spécialistes de ça. Donc, c'est l'agencement. Chaque phrase, chaque mot doit avoir un sens et doit s'imbriquer pour faire un tout. Et on ne doit pas faire une phrase inutile. Donc, il y a un travail vraiment très important. Et ceux qui disent que c'est comme un cours en ligne, j'en fais depuis 20 ans, c'est légèrement différent à cause de l'échelle. Bon, l'avantage de faire ce truc-là, c'est que moi, ça m'a pris honnêtement presque un mois à temps plein. En faire 36. Je suis lent. Bon. Je suis sûr que vous allez faire ça plus vite que moi. Mais ce qui est bien c'est avec ça, c'est qu'on peut réutiliser. Parce que comme on a des briques de 10 minutes, là, on peut, et c'est ce qu'on fait au HEC. Donc, moi, je le réutilise dans un cours en ligne. Il y a des étudiants de lycée en Belgique présentement qui font ça en terminale. Il y a un prof qui avait suivi le cours et qui a dit, bah, mais pour mes étudiants, ça s'est préparé à l'université, pourquoi pas. Et pour nos cours de propédeutique aussi, pour des étudiants gradués, on va le faire aussi. Parce qu'ils ne veulent plus venir en classe, suivre des formations de mise à niveau. Je ne sais pas comment on fait, mise à niveau, là. Ils vont faire ça comme ça. Donc, il y a beaucoup de réutilisation. Bon, les critiques des MOOC, évidemment, c'est normal. Certaines personnes sont plus enthousiastes. Il y a peut-être des problèmes. Bon, est-ce que c'est une innovation vraiment? Bon, on laissera ça aux gens, là, ils écriront dans les revues, on verra. Bon, l'évaluation est problématique parce que... Mais ça va être corrigé. C'est sûr que moi, j'avais des questions à choix multiples. Bon, je me suis beaucoup amélioré sur les questions à choix multiples. C'est possible de faire quand même des choses intéressantes. Bon, il y a des limites. Ça aurait été intéressant de donner des petits travaux, des petites recherches ou des espèces d'analyses. On n'a pas essayé pour l'instant la correction par les pairs. Bon, c'est un volet qui a peut-être à regarder. Donc, c'est sûr que l'évaluation, ce n'est pas parfait. Mais ceci dit, il y a beaucoup de cours en présence où l'évaluation aussi est très problématique. Donc, il faut faire attention là, quand on fait des comparaisons, parce que j'aimerais bien voir, là, en moyenne, qu'est-ce qu'on fait vraiment dans les cours en présentiel, surtout avec des grands groupes. La nature ouverte du contenu, c'est open, mais c'est pas si open que ça parce qu'il faut s'inscrire, puis le matériel n'est pas toujours disponible, là, si on n'est pas inscrit. En fait, il y a peut-être des petites discussions à ce niveau-là. Et bon, il y a toute la question de les MOOC, c'est beaucoup les grandes universités américaines. Il y a cette espèce de... dichotomie, là, grandes universités, les autres, qui inquiètent tout le monde et qui peut causer un problème. Ceux que ça intéresse, j'ai mon collègue Thierry Carsenti, que vous connaissez sûrement, qui a écrit un article qui est disponible maintenant sur ça et qui est très éclairant sur les MOOC, les plus et les moins des MOOC. Donc, je vous encourage à regarder ça. J'aurais pas le temps d'en parler beaucoup de ça, mais je ne sais pas s'il y en a qui utilisent des cartes conceptuelles. Est-ce qu'il y en a qui utilisent les cartes conceptuelles en classe? L'idée, c'est que les étudiants refont la matière avec les cartes conceptuelles, tout ça. Il y a une expérience aux États-Unis par des professeurs de psychologie. Ils ont comparé des étudiants qui avaient suivi un cours et à qui on demandait de faire des cartes conceptuelles et à d'autres qu'on faisait des tests choix multiples, là, vraiment nuls. Là. Et après quelques jours, les étudiants qui se rappelaient le plus de la matière qui avait été traitée, c'était les étudiants qui avaient fait les questions de choix multiples. Bon. Les cartes conceptuelles, là, ici, c'est vraiment... On est dans le connectivisme, là. On est dans les choses fortes, là. C'est quelque chose qui doit nous aider à, justement, à faire des liens, tout ça. Donc finalement, peut-être que les tests à choix multiples, il faudrait peut-être les réhabiliter, puis se dire que, finalement, c'est peut-être pas si mauvais que cela, compte tenu de ce qu'on sait. En fait, c'est à explorer. Bon, ce qui est vraiment intéressant avec les MOOC, c'est ce qu'on va faire avec ça. Et entre autres, ben, vous avez tous entendu parler de cette expérience-là au Rwanda. C'est qu'il y a une pénurie de professeurs d'université. Il n'y a pas d'université. En fait, c'est très difficile. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de monter avec des universités américaines des programmes spéciaux où les étudiants suivent justement les MOOC américains. Mais par contre, ils ont des tuteurs qui sont dans des ONG qui ont souvent des maîtrises, mais qui ne sont pas vraiment des spécialistes d'un domaine, mais qui peuvent aider les étudiants. Donc, on est en train de voir des formules mixtes qui s'impliquent. Classe inversée ici. Classe inversée internationale, et je pense qu'il y a des exemples en France là, de ce genre de choses-là partout. En fait, on va le voir, mais celui-là est particulièrement frappant parce qu'on voit bien que ça peut faire une différence dans certains pays qui n'ont vraiment pas accès à... Et dans ce cas-là, vraiment, de dire, bon, est-ce que le MOOC fait ceci ou le MOOC fait cela, ça me semble particulièrement positif. Bon, aux États-Unis, rapidement... Bill Gates, Bill Gates intervient beaucoup dans l'éducation, là, même c'est pense que ça pourrait aider beaucoup les junior college aux États-Unis, qui sont une espèce de truc un peu particulier, là, qui c'est comme les deux premières années universitaires, à justement aider les étudiants à mieux persévérer. Donc, bon, c'est l'opinion de Bill Gates, on verra, mais Bill Gates, l'avantage, c'est quand il dit quelque chose, il met souvent comme 25 millions. En parlant de Bill Gates, nous avons une subvention de la Fondation Bill Gates pour étudier les MOOC. Et nous, c'est avec des collègues de l'Université de Montréal et de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette idée-là de la motivation et de la persévérance. Parce que nous, on pense qu'on avait des étudiants particulièrement motivés. On a fait des sondages. On a à peu près 800 étudiants qui ont rempli un questionnaire au début du MOOC, ce qui est énorme. On est vraiment très, très contents du taux de réponse. Et on va suivre les traces des apprenants et on va essayer de donner une idée de quels sont les apprenants, par exemple, qui ont fait tout le MOOC sans faire les tests. Et il y en a, on sait qu'il y en a beaucoup. Parce que c'est pas la certification qui les intéressait, c'était d'apprendre. C'est des gens curieux. Et il va falloir peut-être sortir des métriques d'évaluation peut-être un peu différentes pour les MOOC que les métriques que j'ai réussi ou les étudiants ont réussi, ont pas réussi. Il y a peut-être quelque chose d'un peu plus large, là. En tout cas, à suivre, vous regarderez, on va vous tenir au courant de ça. Évidemment, quand on parle des MOOC, on parle de toute la question de l'open education, l'éducation libre, ouverte, en fait, cette idée-là d'avoir des ressources en accès libre. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Wikipédia est un exemple spectaculaire et vraiment, en fait, extraordinaire même. En France, il y a les universités numériques thématiques. Il y a un État aux États-Unis qui c'est quand même pas mal, qui a obligé tous les établissements primaires, secondaires d'utiliser seulement des ressources en accès libre. Donc, fini les livres que les parents achètent. Tout est gratuit parce que l'État a financé des livres gratuits, donc c'est disponible à tout le monde. Beaucoup voient les MOOC comme étant une suite là, d'une expérience qui a été très, très publicitée, que vous connaissez sûrement, le fameux MIT OpenCourseWare, où vous aviez implicitement presque des MOOC, là. Mais la différence, j'en ai suivi quelques-uns, c'est que vous aviez le professeur pendant une heure et demie, fois 25. C'est très long. Il faut vraiment être très motivé pour suivre un professeur, raconter les blagues sur le campus de MIT, puis c'est intéressant, mais ça dure une heure et demie. Donc, et c'est pour ça que ça a été très utile, mais pas le volet vraiment suivre le cours, plus le volet consulter des ressources et tout ça. Au HEC, on a quelque chose qui pourrait, encore une fois, un peu Je pense que quelque chose qui va devenir intéressant, c'est justement, c'est le partage, la diffusion de contenu. Et au HEC, on a un truc que je pense qui est intéressant, qui mériterait d'être mieux connu, c'est qu'on a un portail de cours. Et tous nos cours, tous nos syllabus de cours, là, je vais faire une petite... syllabus de cours, pour nous, ça ressemble plus au livret pédagogique qu'à ce que vous appelez un plan de cours. Donc, ça comprend pas juste le plan de cours, mais ça comprend les lectures que les étudiants doivent faire. Moi, j'ai des exercices. Donc, c'est quelque chose quand même beaucoup plus étendu. Donc, au HEC, on a un portail de cours comme ça, et on peut avoir accès par discipline, par programme, à tous les cours qui sont donnés à HEC Montréal avec un degré de variabilité très grand. Dans certains cours, vous avez accès à tout. Dans d'autres cours, c'est plutôt mince, mais c'est au choix des enseignants. Et dans mon cours à moi, par exemple, qui s'appelle « Problèmes et politiques économiques », moi, j'ai tout. J'ai les objectifs du cours, j'ai les lectures à faire, beaucoup de questions, des hyperliens. En fait, c'est le cours qui est vraiment disponible. Et ça peut devenir intéressant, cette partage-là, cette diffusion-là, dans un monde où, avec les MOOC, on s'en va de plus en plus vers quelque chose, je pense, qui sera ouvert. Et ça nous amène sur les normes. Parce que la façon dont on s'est construit à HEC Montréal, quelqu'un, il y a une interopérabilité. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait carrément aller chercher tout le contenu et l'importer dans sa plateforme. Pas juste aller voir et faire des copier-coller, là. Vraiment avoir une interopérabilité de contenu. Donc, importer quoi, tout le matériel, quoi, finalement. Et ça commence à être intéressant, parce que si pour faire de l'interopérabilité, il faut comme se taper, le transfert de tous les fichiers, puis de faire des copier-coller, c'est quand même assez laborieux. Donc, ça, c'est... quelque chose d'important, les compétences... Bon, en général, c'est pas quelque chose qui intéresse les enseignants. Il y a deux clans, là. C'est un peu comme les MOOC, les compétences. Il y en a qui aiment, puis il y en a qui détestent. Mais là, c'est pas notre faute, hein. Vous savez que ça vient de vous. C'est le cadre européen de certification pour l'éducation et la formation. Ça décrit qu'est-ce que c'est une compétence, la capacité avérée d'utiliser des savoirs, des aptitudes, des dispositions personnelles, sociales et méthodologiques dans des situations de travail ou d'études, pour le développement professionnel ou personnel. Donc, c'est vraiment une très bonne définition. On ne peut pas être contre une définition comme celle-là. Donc, on vise tous à faire un peu, à équiper nos étudiants là-dessus. Sans rentrer dans les détails, les référentiels de compétences, c'est beau en pratique, mais il y a des aspects comme plus laborieux. Il faut décrire ce que c'est vraiment une compétence, souvent décrire une capacité qui est comme une sous-compétence, identifier des manifestations observables, parce que pour aider, il faut avoir des grilles d'évaluation. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, compétence, c'est facile, mais la pratique n'est pas évidente. Donc, il y en a des exemples. Ici, en Europe, il y a celui pour les langues, qui est assez développé. Il y a les C2I, hein, c'est un exemple de référentiel de compétences, niveau 1-2. Et au Québec, on en a un pour le référentiel des compétences de la profession enseignante. Bon, un enseignant au Québec doit maîtriser, pour avoir la permission d'enseigner, il doit avoir des compétences dans 4 domaines, là, les fondements, le contexte scolaire, l'acte d'enseigner, l'identité professionnelle. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais vous en montrer une compétence qui s'appelle « Communiquer clairement et correctement dans la langue d'enseignement à l'oral et à l'écrit dans divers contextes liés à la profession enseignante ». Bon, on veut tous qu'un enseignant soit capable de faire ça. Je pense qu'on en convient. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Bien, et c'est là qu'il y a des manifestations observables. Je ne vais pas les lire toutes, mais cette idée-là de décliner de façon plus précise qu'est-ce que c'est vraiment cette compétence-là pour qu'un étudiant ou une étudiante puisse comprendre, adapter son comportement, que ça puisse guider l'évaluation. Donc, ça, c'est un exemple là, de manière. Donc, c'est assez. Il faut les écrire et c'est fait en collégialité, règle générale, et c'est quand même assez laborieux. Bon, les avantages d'un programme par compétence, énorme. Ça aide beaucoup à la lisibilité d'un programme parce que souvent les employeurs se plaignent, bien, qu'est-ce que vous apprenez? Bien, ils ont fait le cours. Aux États-Unis, c'est criant-là. Mathématiques 101, mathématiques 301, mathématiques 404. Mais encore. OK. Donc, les compétences, ça permet vraiment de mieux cerner les paramètres. Ça aide beaucoup à la cohérence des programmes parce que vraiment, on essaie d'avoir un parcours intéressant. Ça aide la coordination des collègues pour éviter que tout le monde développe la même facette. Et ça aide beaucoup aux mesures des apprentissages. Pour les étudiants, ça fait quelque chose de beaucoup plus réflexif parce que ça enclenche des mécanismes là, de dire, bon, ben effectivement, je pourrais m'améliorer sur ce point de vue-là ou l'autre. Ça fait des choses qui sont plus individualisées, ce qui n'est pas mauvais non plus. C'est une des critiques qu'on fait de l'enseignement supérieur. C'est pas assez individualisé. Et ça fait peut-être, il y a l'occasion d'avoir de la rétroaction, un peu plus ciblée, plus continue. Les Américains ont repris tout ça, hein, c'est hallucinant comment. Il y a un truc qui s'appelle le DQP, le Degree Qualification Profile. C'est la certification européenne, là. C'est cette idée-là de préciser qu'est-ce que les étudiants, quand ils ont terminé un programme universitaire, devraient être capables de faire et de comprendre. Donc, c'est vraiment très en lien avec. Ils ont suivi de très près ce qui s'est fait en Europe. Il y a eu un impact là, très grand. Et bien, j'ai un petit article là, qui parle là, de que, évidemment, les universités américaines, ça, c'est le volet un petit peu américain, il y a vraiment une réelle préoccupation présentement aux États-Unis à savoir qu'est-ce que les étudiants ont réussi à faire, qu'est-ce que nos étudiants sont capables de faire à la fin des programmes. Je vous rappelle que les étudiants américains paient entre 20 et 40 000 $ pour des diplômes et que les parents commencent à s'inquiéter, surtout avec la récession, quand les étudiants n'ont pas d'emploi. Donc, il y a vraiment cette pression-là, très forte aux États-Unis, sur qu'est-ce que les étudiants apprennent. Puis évidemment, il y a des entreprises qui sont prêtes à vous aider là, à faire justement ce passage-là sur aider les universités à se reparamétrer dans cet environnement-là. Il y a même des universités américaines, puis là, j'avoue mon ignorance là, pour le côté européen, mais il y a une université aux États-Unis qui est très connue, qui fonctionne strictement par compétences. Donc, un diplôme universitaire, c'est une liste de compétences, et cette université-là fait des analyses de VAE, des acquis de compétences, et vous pouvez avoir suivi des cours dans différentes universités américaines, aucun problème. Il y a des gens il y a des conseillers qui vont faire une analyse et qui vont comme vous reformater vos cours pour vous donner un diplôme de cette université-là. Et cette université-là est en forte croissance aux États-Unis et beaucoup de gouverneurs américains s'en servent comme une menace. Et au Wisconsin, ça a marché comme ça. Ils ont dit aux universités publiques là, au Wisconsin, si vous ne faites pas quelque chose pour avoir des diplômes en compétences, on va faire venir Western Government University. Et spontanément, les universités de Wisconsin ont développé une université par compétences. C'est cette idée-là de vraiment donner une chance. Moi, je vois ça de façon très positive. C'est donner une chance à des gens qui ont fait des parcours vraiment atypiques et de reconnaître ces parcours-là et de les valider avec un diplôme universitaire. Donc, c'est quand même assez intéressant. Si les universités ne le font pas aux États-Unis, il y a des entreprises qui sont en train de faire. Donc, il y a ce qu'on appelle le SAT aux États-Unis. C'est le test que tous les étudiants universitaires américains doivent faire pour entrer à l'université. Donc, c'est comme un test d'entrée. Et là, on parle de plus en plus du post-SAT. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des entreprises qui vont aller évaluer des étudiants universitaires et qui vont comparer les universités entre elles en termes de résultats des tests post. C'est-à-dire, qu'est-ce que vos étudiants sont capables de faire après l'université? Donc, vraiment, la pression est forte sur beaucoup de plus petites universités qui n'ont pas la réputation et qui doivent peut-être montrer patte blanche. Bon, rapidement, les grilles de correction, ça, c'est un truc là, qui est entre les compétences et peut-être les objectifs d'apprentissage. Il y a un programme très populaire qui s'appelle l'Association of American College and University. Ils ont développé ce qui s'appelle VALUE. C'est toutes sortes de compétences que, dans le fond, les étudiants universitaires américains devraient développer. Il y en a un certain nombre, vous les voyez ici. Donc, comme l'esprit critique. Bon. La responsabilité sociale. L'intégration d'apprentissage. Donc, ils ont développé un certain nombre de facettes comme ça. Et ils ont développé des grilles, là. Évidemment, personne ne les voit. Mais c'est des grilles de correction. Je pense que vous connaissez un peu les grilles de correction. C'est de façon un petit peu plus, là, organisée de corriger. C'est-à-dire qu'on décide des certains niveaux et dans les cases, on indique ce qui est attendu des étudiants pour développer ce niveau-là. Et en particulier, il y a un truc dans Creative Thinking, l'apprentissage, là, la pensée créative, qui s'appelle prendre des risques. Parce qu'évidemment, pour prendre des risques, pour avoir une pensée créative, il faut être prêt à prendre des risques. Et là, il y a comme une rubrique de correction. Capstone, ce qui est le plus élevé. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment dans son travail, a cherché des approches vraiment nouvelles, très différentes. Donc, on essaie de préciser ce que ça veut dire prendre des risques. Et benchmark, un, c'est quelqu'un qui fait peut-être ce qui est tout juste la note de passage. C'est quelqu'un qui fait là, exactement ce que le professeur a demandé dans le travail. Donc, ça serait, bon, passable. Mais quelqu'un qui a exploré différentes avenues, même si ça voulait dire que peut-être le professeur n'aimerait pas, parce que c'est peut-être un peu hors norme, bien, il y aurait une meilleure note. Donc, voyez un peu cette idée-là de correction avec des grilles. Et même dans certains cas, on est rendu à des relevés de notes. Je ne sais pas si on utilise le même terme, les résultats scolaires, les relevés de notes, oui, qui sont complètement par compétence. Donc, on n'a plus vraiment de notes par cours, on a des résultats par compétence. Et si vous voulez voir un peu ce que ça donne pour l'université de l'Arizona du Nord, ce n'est pas nécessairement des universités connues, mais quand même, c'est des universités qui sont accréditées, bien, vous avez un relevé de notes qui est en termes de compétences. Et les étoiles, là, je n'ai pas vraiment le temps de vous expliquer, là, mais il y a tout un mécanisme là, d'étoiles avec des chiffres qui indiquent le niveau atteint par cet étudiant-là. Donc, maintenant, on a des relevés de notes par compétences. Ce qui nous amène aussi, j'aime beaucoup en parler de ça, c'est l'Université Stanford aux États-Unis qui, dans son passage au relevé de notes numériques, parce que les étudiants à l'Université Stanford demandaient d'avoir des relevés de notes numériques. Bon, ils ne voulaient plus de relevés de notes papier, c'était inutile. Donc, ils voulaient des relevés de notes numériques. Donc, l'Université Stanford est en train, tranquillement, de basculer avec quelque chose qui ressemble un peu à ça, c'est-à-dire que, oui, le relevé de notes va être numérique, mais on pense éventuellement, mais en fait, ça a déjà commencé, mettre des hyperliens dans le relevé de notes numérique vers des travaux qui ont été effectués par des étudiants de Stanford et validés par l'université. Pas un travail que moi, j'ai fait comme ça, là, mais c'est un travail qui va être certifié par l'Université de Stanford comme ayant été corrigé par tel professeur. Et on va même donner, en fait, toutes sortes d'informations sur le travail. Donc, vous voyez qu'il y a cette idée-là de certification s'ouvre là, de plus en plus. Bon, les badges... Bon, je vais avoir le temps de... Moi, c'est pas mal, j'ai quelques minutes, puis je vais terminer. Bon, les badges. On en parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Bon, j'aurais pas vraiment le temps de faire un... Et je peux pas dire que je suis un connaisseur là, de ça, mais il y a un professeur américain... Ben, c'est un intervenant, disons, en pédagogie dans une université américaine qui est assez connue, qui s'appelle Randy Bass, qui est à l'université de Georgetown, qui pousse depuis quelques années ce qu'il appelle l'apprentissage formel puis informel. C'est-à-dire qu'il y a le curriculum formel, c'est-à-dire les cours que les étudiants doivent suivre. Mais dans son université et dans beaucoup d'universités, on s'aperçoit que l'apprentissage se fait de plus en plus à l'extérieur du cadre formel universitaire. Il se fait dans les cours, un peu, mais il se fait beaucoup dans quoi? Dans les stages, les travaux pratiques que certains étudiants doivent faire, dans la participation à des groupes d'étudiants, dans l'organisation de toutes sortes d'activités. Donc, c'est clair que dans un environnement où les cours sont importants, mais la périphérie universitaire est vraiment importante aussi, bien, qu'il y a un système de reconnaissance un peu externe qui s'installe. Et les badges, c'est un peu ça. C'est une attestation validée, pas par une université nécessairement, mais ça pourrait l'être, de la réalisation d'une activité, de l'atteinte d'un objectif ou du développement d'une compétence. Donc, c'est souvent donné par des organismes là, qui sont reconnus. Par exemple, Wikipédia pourrait donner des badges. Bon, quand vous avez été un rédacteur Wikipédia pendant 5-6 ans sur le thème, là, je ne sais pas, en médecine, là, bien, quand même, c'est quelque chose qui représente. Là. Et si un éditeur de Wikipédia senior pouvait attester de votre travail, il me semble que ça serait intéressant. Donc, les badges, c'est un peu quelque chose qui est en train de s'organiser. Il y a des trucs techniques. Bon, tout le monde utilise le Furtar Firefox. Là, la Fondation Mozilla s'intéresse beaucoup à cette question-là des badges et va fournir la mécanique technologique pour les badges. Et en anglais, ils appellent ça, c'est drôle, le pack-sack. Là. Donc, c'est comme un pack-sack, puis là, je mets mes badges dans mon pack-sack. Il ne faudrait pas que j'en ai trop, parce que ça va être trop lourd. Mais c'est intéressant. Mais évidemment, il reste là à... Il y a tout un travail à faire de, bon, qui va donner les badges? Est-ce que ça va être reconnu? Est-ce que ça va être intéressant? Donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et on glisse rapidement vers les portfolios. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, vous savez qu'est-ce que c'est un e-portfolio? Bon, c'est à la mode, c'est moins à la mode. Ça dépend des périodes. Moi, je trouve ça quand même intéressant. En fait, c'est une collection d'informations numériques, d'artefacts, qui décrivent et illustrent l'apprentissage ou la carrière d'une personne. Je pense qu'on peut s'en tenir à ça. Hein? C'est proche, hein? Dans le fond. C'est un peu un conteneur de badge, quelque part. Hein? C'est quelque chose qui rassemble tout ce qu'on a fait. Certains vont dire, là, on en a, là, qui vont dire que c'est presque notre identité numérique. Idéalement, ça devrait être l'identité numérique, un portfolio. C'est moi dans un univers numérique. Bon, je pense qu'il y a une démarche en France qui est très intéressante là, de e-portfolio dans l'enseignement supérieur. Il y a plusieurs livres blancs qui ont été produits, qui sont intéressants à lire, en fait, et que je recommande là, sans problème, que j'ai lu avec intérêt. En fait, l'idée, c'est... un portfolio, moi, j'ai pas beaucoup de photos, hein, désolé. Faut mettre plus de photos dans ces présentations-là. Dans les MOOC, entre autres, il faut mettre plus de photos. Mais c'est un portfolio, c'est un peu un garde-robe comme ça, là, où on met toutes sortes de choses. Et j'ai pas de talent artistique, là, mais en fait, on accroche ce qu'on a fait. Hein, un petit vidéo de présentation de quelque chose qui est vraiment intéressant, des relevés de notes, un certificat MOOC, là, tiens, de HEC, par exemple. Et un championnat de tennis, pourquoi pas. Hein? On peut le mettre avec une raquette en bas. Ça serait... Donc, c'est un peu l'idée du portfolio. Et je vais vous donner un exemple, peut-être, de ce qu'on a fait à Mathieu Montréal sur les portfolios. Je vais terminer là-dessus. C'est de revenir aux fameuses compétences de l'enseignant là, dont j'ai parlé et de la compétence 2, qui s'appelle « communiquer clairement ». Et comment ça se met en pratique, ce genre de choses-là, bien, on a développé un environnement à Matisse-Montréal, et on travaille en collaboration avec la Faculté des sciences de l'éducation, où les étudiants ont un portfolio numérique où ils doivent s'auto-évaluer. Donc, vous voyez la manifestation 1.1 qui est ici, qui est projetée. Donc, pour chacune des manifestations qui sont indiquées à la gauche, là, on les voit dans la colonne de gauche, bien, chaque étudiant ou étudiante doit se positionner en début de stage et en fin de stage sur la maîtrise de cette compétence-là en travers une auto-évaluation de la manifestation. Donc, c'est très réflexif. C'est très demandant, mais c'est intéressant. Donc, ici, j'ai mis un exemple là, de rouge. Donc, il y a un problème. Donc, la réflexion, l'auto-réflexion fait en sorte qu'il y a un petit problème. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on est capable de rapidement développer des cartes, des espèces de tableaux de bord. Et on peut voir rapidement dans un coup d'œil que, oh, ça s'améliore pour mes compétences 1, pour la compétence 1. J'étais en rouge et là, maintenant, en fin de stage, je suis en vert. Donc, j'ai progressé. Donc, ça donne une idée beaucoup plus concrète, là, ça encourage. Enfin, moi, je vois ça comme un environnement très, très, très stimulant pour un développement professionnel. Enfin, c'est pas simple, là. Ça, c'est l'itération 24, là, de ce qu'on a fait. C'est très complexe dans le sens où il faut avoir un outil qui est simple et que les enseignants vont aimer, que les étudiants vont pouvoir accepter d'utiliser. Donc, il y a une négociation là, qui est compliquée. Ça, c'est la partie du superviseur. Donc, il y a un superviseur aussi qui intervient. Donc, c'est vraiment un environnement de suivi en stage là, qui est opérationnel. Donc, quand même, c'est ce qu'on a fait. On a fait à peu près tout. Conclusion. C'est estomacant de voir qu'il y a une grande diversité de méthodes et d'approches. On est chanceux, moi, je trouve, de travailler dans les prochaines années. Donc, c'est pas le temps de prendre sa retraite, personne. Les 5 prochaines années vont être vraiment quelque chose. Bon, ça fait 5 ans qu'on dit qu'on est à la croisée des chemins. Ça fait 25 ans qu'on est à la croisée des chemins. C'est Pierre et le loup, hein? Le loup s'en vient, mais il s'en vient pas. Finalement, le loup est là. Mais peut-être que ce coup-ci, le loup est là. Et il faudra se préparer. Parce que c'est vraiment la question du triangle éducation qui nous interpelle beaucoup. Les coûts, la qualité, l'accès. On est interpellé plus que jamais par ces questions-là et il va falloir y répondre. Et il va falloir travailler de façon un peu plus intégrée, je pense. Là, c'est ma partie plus personnelle. Je pense qu'on est trop en silo, on manque un peu de vision, on manque d'intégration. Et nous, on travaille beaucoup dans notre centre sur ce qu'on appelle les systèmes pédagogiques intégrés. C'est-à-dire cette idée-là de prendre des morceaux et d'essayer de les connecter. Et je pense qu'on avance là-dessus. On a passé beaucoup, beaucoup de temps dans les années précédentes à faire du contenu. Hein, je pense qu'on faisait du contenu numérique, on développait du contenu. Et là, j'ai l'impression qu'il va falloir déployer nos efforts sur l'évaluation. Parce que le rôle des universités va beaucoup plus aller du côté de l'accompagnement et de l'évaluation, de la certification. Parce que le contenu est gratuit, il est là partout. Bon, est-ce qu'on met nos ressources rares à développer du contenu qui existe ou on met nos ressources rares à développer une évaluation, un accompagnement qui est particulier, qui a une valeur ajoutée? Donc, moi, je pense que c'est une question incontournable. Il va falloir collaborer beaucoup plus. Collaborer entre collègues, d'une même discipline, entre collègues de différentes universités, entre collègues professeurs et collègues qui sont pas professeurs, qui sont dans l'accompagnement pédagogique. Ce que vous appelez les FEVU, je pense, là? Les CEVU, non? En fait, ceux qui s'occupent à la fin là, de... Bon. J'ai réussi à montrer mon incompréhension là, du système français. Et ça va demander surtout beaucoup de leadership. Parce que ça, c'est pas un truc qu'un professeur peut faire tout seul. C'est pas quelque chose que les étudiants peuvent faire tout seuls. Quoique, si les étudiants s'y mettent, faut voir, on verra. Donc, c'est vraiment une question de canaliser cette énergie-là pour faire en sorte qu'on puisse travailler tous ensemble là, dans cette direction-là et faire beaucoup d'expérimentations. Donc, je termine là-dessus. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vais me faire plaisir de répondre aux questions. Ceux qui veulent une version écrite de ça, sur Renaud, l'enseignement et l'apprentissage à l'UPMF. Vous avez une partie de ce que j'ai... Ça ressemble un peu à ce que j'ai présenté aujourd'hui, mais qui a été fait avant. Donc, vous verrez. On ne parle pas de MOOC en 2011. Ce n'était pas encore à la mode. Donc, voilà.